Bonjour Marie-Pierre Simakopoulos. Nous
Bonjour.
sommes ici à la fabrique, qui est un bistrot très sympathique, la légère musique de fond, et qui va nous faire un petit fond musical pour cette petite interview. Et donc là, on va parler un petit peu d'un projet dans lequel tu as participé, concerne l'accessibilité, mais dans un aspect très particulier, qui est l'accessibilité des œuvres d'art, des œuvres visuelles. Et avant tout, je vais te présenter. Donc, un peu, si tu nous parles, si tu peux parler un petit peu de toi, de ce que tu es, quel est ton travail en général.
Oui. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Assimakopoulos. Beaucoup de gens m'appellent Mapi. Je suis psychologue conseillère en orientation dans un établissement scolaire essentiellement. Ça veut dire que mon métier consiste à aider les élèves à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et c'est un métier magnifique et qui me passionne. Je suis non-voyante de naissance. Et j'ai été embarquée, si j'ose dire, dans ce projet de description de certaines œuvres de la collection de l'art brut, en discutant avec Stéphane Richard, un des audiodescripteurs que vous connaissez bien à la BSR, n'est-ce pas, qui m'a demandé si je serais d'accord d'être... j'aime pas ce mot d'experte, parce que je trouve qu'il reflète pas forcément... Je ne me sens pas experte en quoi que ce soit, mais consistant à déterminer quels sont les éléments importants de l'audiodescription des œuvres de la collection de l'art brut, qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on puisse tous entrer dans ces œuvres qui sont quand même un monde bien particulier.
Donc toi, tu as été engagé oui, capturé comme experte,
sollicité
comme experte, et à ce moment-là, donc là, il y a eu ce travail qui était, enfin, tu devais en quelque sorte valider ce qui était produit par les audiodescripteurs.
Oui, valider. Est-ce que c'était compréhensible, accessible ou non? Et ce qui était extrêmement intéressant dans cette expérience, c'est qu'on était plusieurs. Nous étions plusieurs personnes, des personnes qui ont déjà vu, des personnes qui, comme moi, n'ont jamais vu. Des personnes qui voient encore, des personnes qui ont une grande connaissance de l'art, d'autres qui sont comme moi de simples amateurs. Et c'était extrêmement intéressant de mixer comme ça ces différents points de vue pour... Parce que l'audiodescription, quelle qu'elle soit, ne correspondra, de ce genre d'œuvre, ne correspondra jamais à tout le monde. Certains aiment aller dans les moindres détails, d'autres s'impatiente peut-être plus vite. Et comment faire pour que cette audiodescription convienne au plus grand nombre? Et là, nos audiodescripteurs, ils ont relevé un immense défi et vraiment un sacré coup de chapeau.
Parce que aussi, il faut dire qu'il y avait parmi les experts où tu étais, il y avait des différents types de rapports à la vue. Parce que toi, tu es non-voyant de naissance, mais il y en avait d'autres qui avaient perdu la vue sur le tard ou qui voient encore un peu. Donc est-ce que c'est différent la manière de percevoir et l'audiodescription par rapport à ça?
Bien sûr, parce que pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais vu, c'était je me disais, mais comment moi qui n'ai jamais vu, je vais réussir à me représenter tout ça? Et je me souviens que ma première impression lorsque j'ai écouté ces audiodescriptions pour la première fois, je me suis sentie presque intimidée devant ces œuvres. En me disant, mais comment est-ce que je vais comprendre? Comment est-ce que... Et j'avais un immense respect mêlé de... J'étais un peu intimidée, un peu émue. Et petit à petit, en écoutant, puis en réécoutant, vous réécoutez une première fois, vous êtes un peu intimidée. Vous réécoutez une seconde fois, ah là, tout d'un coup, on commence à bien entrer dans l'œuvre. Et ça a été, il m'a fallu plusieurs écoutes pour vraiment entrer dedans, et l'expérience était passionnante.
Parce que, il faut dire qu'il y a des œuvres, donc il y avait des peintures, il y avait des sculptures aussi.
Tout à fait.
Et donc parmi les peintures, il y avait des peintures avec des couleurs, etc. Donc comment par exemple, toi, comment est-ce que tu perçois une description dans laquelle justement les couleurs sont mentionnées souvent?
Ça, c'est la question type que toute personne qui voit ou qui a vu se pose. À vrai dire, Benigno, j'aurais très envie de te la retourner, la question. Comment toi, tu perçois les couleurs? Parce que pour moi, les couleurs, je n'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agit réellement, mais ce que je me suis construit dans ma tête, qui m'est propre, c'est d'essayer de faire le lien entre une couleur et, que je ne connais pas et un objet ou quelque chose qui m'est familier. Je ne sais pas, par exemple, le rouge, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le sang, je sais ce que c'est. Donc ça, le rouge va m'évoquer quelque chose de chaud, va aussi m'évoquer quelque chose qu'on ne peut pas ne pas remarquer, puisque nécessairement lorsqu'on saigne, ça veut bien souvent dire qu'on s'est fait mal, donc on ne peut pas ne pas s'en rendre compte. Donc je vais imaginer quelque chose qu'on remarque aisément. Donc ça n'implique que moi, d'autres personnes qui n'ont jamais vu vont se représenter les couleurs en fonction de température, d'autres en fonction d'une émotion ou en fonction de quelque chose auquel elle le rattache. Là, je pense que chacun se fait sa propre cosmogonie, si je puis dire, pour s'y retrouver un tant soit peu. Mais alors, chez moi, c'est vraiment très peu élaboré. C'est vraiment, est-ce que j'ai envie de porter une couleur qui m'évoque ceci ou cela, ou non?
Et du coup, dans la description, quels sont les éléments justement qui t'attirent le plus? Parce que, par exemple, il y a des différentes œuvres. Il y a différentes œuvres. Il y a Dolores Corba, il y avait Clément Fraise, Émile Ratier, qui était plutôt un sculpteur.
C'est ça.
La Tour Eiffel, qui a fait la Tour Eiffel. Et Marguerite Sévens, qui a fait la robe.
La
fameuse robe. Oui. Et donc, toi, quelles sont les œuvres qui t'ont attiré le plus et pourquoi?
Alors, ce qui m'a aidé, je parlais tout à l'heure de mon sentiment d'être intimidée la première fois que j'ai écouté les audiodescriptions. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait d'intercaler des éléments de la biographie des auteurs dans l'audiodescription. C'est-à-dire que on avait un peu entrecroisé la description de l'œuvre et des éléments de la biographie de l'auteur. Et cette manière de faire est allée titiller la psychologue que je suis pour aller chercher qui était cette personne, pour aller chercher quels éléments de sa vie l'avaient conduite à créer de cette façon. Le fait d'avoir des éléments de l'œuvre et des éléments de la biographie de l'auteur m'ont permis de me rendre... Ça a été comme une rencontre. Lorsqu'on rencontre une personne, elle nous est parfois sympathique, parfois on ressent rien de particulier, un peu neutre comme ça. Soit on a un sentiment de, c'est plus rare heureusement, mais de répulsion. Et ça m'a permis de savoir quelles étaient les œuvres qui, entre guillemets, me parlaient le plus et quels étaient les auteurs dont j'avais plus envie d'entrer dans l'univers, et ceux un peu moins. Il y en a certains qui ont un univers qui fait presque un peu peur comme ça. Mais c'est lié aussi à leur vécu, énormément.
Oui, parce qu'il faut dire que l'art brut, c'est lié aussi à des situations, à des vécus de personnes qui ont parfois été en asile, qui ont une vie était très dure.
Mm-hmm. Et ça entrait ça aussi dans mon sentiment d'être intimidée au départ en abordant ces œuvres, parce que je me suis dit, mais ces personnes-là qui vivaient quand même dans des se représenter qu'elles étaient dans des asiles où c'était bruyant en permanence, avec beaucoup de promiscuité, avec peu finalement de possibilités de... qu'une des seules possibilités de s'évader ne serait-ce que dans sa tête, c'était l'imagination, c'était la création, et c'est ce qui me donnait un sentiment de respect teinté d'intimidation pour ce genre d'œuvre.
Est-ce que, outre le fait de la description, est-ce que tu aurais voulu ou tu as pu toucher certains œuvres? Parce qu'il y a aussi les touchés parfois qui permettent d'appréhender les œuvres.
Non, parce que la plupart de ces œuvres, on ne peut pas les toucher. Et justement, le but de l'audiodescription, c'est de pallier à ceci. Tu imagines si on allait toucher la Tour Eiffel, alors on peut l'effleurer très délicatement, ce que nous avons pu faire lors d'une visite. Mais notamment avec les lambris de Clément Fraisse. Mais bien sûr qu'il s'agit d'un toucher extrêmement délicat et finalement peu exploratoire. Et là, c'est vraiment les mots qui pallient à cela. Et je pense que le toucher, justement, le fait qu'il y ait une audiodescription fait qu'on ressent moins le besoin de toucher, puisqu'on a accès autrement, par le truchement des mots.
Et en fait, ce qui est... parce que moi, il y a le vécu et l'histoire, donc en fait, tu me dis en quelque sorte que c'est plus que l'œuvre en soi, c'est un ensemble qui te parle.
Oui, c'est vraiment l'œuvre intercalée avec... l'œuvre en lien avec la biographie de la personne qui l'a créée.
Parce que là, par rapport à une audiodescription que tu connais, tu es aussi un peu experte dans les descriptions des théâtres ou films.
Du cinéma, oui.
Il y a quand même quelque chose de qui va au-delà.
Bien sûr, qui est différent en tout cas.
Ouais. Parce que là, il n'y a pas d'appui. Enfin, il n'y a pas d'appui autre que qu'est-ce que la description elle-même par rapport au cinéma, par exemple. Il y a les actions, il y a les voix, il y a les dialogues, et puis la description bien complète, bien complétée. Mais là c'est le tout. En fait.
C'est juste l'audiodescription est un tout, là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des moments de... ces moments d'habillage sonore. Ouais. Et la personne qui... Enfin, les audiodescripteurs et la personne responsable de l'habillage sonore ont fait un boulot juste magnifique.
Donc on a un habillage sonore ici.
Oui, nous avons aussi un habillage sonore en forme de machine à café. Voilà.
Et donc, pour conclure un peu, quel est ton ressenti global de cette expérience? Qu'est-ce que tu as tiré de ça?
Alors, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'en ai retiré la découverte d'un monde que je ne connaissais pas. Parce que les œuvres présentes au musée de l'art brut sont visuelles par excellence. Et donc, j'aurais pas imaginé pouvoir y avoir accès de cette façon-là. Donc, j'étais très reconnaissante d'avoir pu découvrir ça. Et je pense que ces audiodescriptions vont nous servir à nous, malvoyants, non-voyants, etc. Mais aussi... à toute personne un peu curieuse et qui a envie de découvrir une œuvre d'art autrement. Et ça peut également servir à des gens qui peut-être n'ont pas plus de goût que ça pour a priori pour l'art et qui ont envie de le découvrir par un autre truchement, un autre biais.
Confirme, parce qu'on a vu des détails parfois qui ne sont pas comme ça.
Absolument, l'audiodescription va dans les moindres détails, alors que lorsqu'on déambule dans un musée, parfois on va passer un peu vite. Et là, l'audiodescription nous oblige à aller très loin dans l'observation et les détails. Et je pense que c'est là aussi sa richesse qui va bien au-delà de donner accès à des personnes mal ou non-voyantes. Ça peut donner accès à toutes sortes de gens, un peu curieux, mais peut-être un peu pressés, ou à différentes personnes.
Merci. Donc, c'était une bonne expérience positive. Tu recommandes la visite du musée.
Oui, et je la recommande aussi, dans la mesure du possible, avec vos proches. Parce que lorsqu'on visite, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, la collection de l'art brut à plusieurs, chacun donne son avis, discute. Et habituellement, lorsque vous êtes dans un musée de peinture où vos amis parlent de l'expo qu'ils viennent de voir, mais vous êtes largués, Tandis que là, vous pouvez participer également à la discussion, puisque grâce à l'audiodescription, vous avez aussi pu vous faire une idée. Et ça, c'est quelque chose de très très chouette.
C'est super, oui, en effet, c'est un très joli projet, et puis en effet, on les recommande, on peut visiter, il y a l'accueil, et puis il y a des QR codes aussi qui permettent aux gens d'aller
au téléphone. Alors justement, ça c'est aussi un élément important. Chaque œuvre qui a été audio-décrite, il y a un petit cartel placé devant avec un QR code que vous n'avez plus qu'à scanner avec n'importe quel smartphone, et vous avez accès à l'audio-description dans l'oreillette.
J'espère que ça va attirer plus d'auditeurs et d'auditrices pour visiter la collection de l'art brut.
J'ajouterais aussi à ça que on est libre normalement lorsque vous entrez dans un musée avec un audio guide. L'audio guide se déclenche tout seul, donc vous n'avez pas le choix que d'écouter. Bien sûr que vous pouvez avancer ou reculer si vous le souhaitez, mais là vous déclenchez vous-même l'audio description ou pas, justement. Et je pense que cette liberté-là, elle est importante. C'est vous qui choisissez.
Écoute, je te remercie beaucoup, Maria, de m'avoir concédé un peu de ton temps et puis d'avoir enrichi un peu
avec
cette...
Avec grand plaisir.
Et puis, voilà, à bientôt.
À bientôt.
Merci.